Coulisses, le podcast de la présidentielle.
Ne croyez pas les sondages. Les sondages, ça va et vient, c'est comme la queue du chien.
Bah non, mais
prenez pas pour une buse non plus.
Je prends pas pour une buse.
On n'attend pas du chef de l'État qu'il monte sur la table pour danser. Hein.
Il comprend pas bien les Français. Il est hors sol. Il est hors sol.
Cette candidature d'un guignol, mais c'est un guignol.
Ouais, vous allez poser vos caméras et boire un coup quand même.
Tout est en place. Il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton.
Coulisses, le podcast de la présidentielle.
Bonjour, je suis Jérémy Trottin, le chef du service politique de RMC. Et en cette année présidentielle, j'ai décidé avec mon service, Hélène, Juliette, Romain, Pierrick et Paul, de vous proposer un podcast. On y a beaucoup réfléchi, on a fait beaucoup de réunions, on a débattu et on s'est dit que ce que nous souhaitions, tout simplement, c'est vous transporter dans les coulisses de cette campagne. Ces déplacements secrets, ces échanges inattendus, parfois violents, entre les candidats et les Français, ou encore ces confidences en off, loin des micros et des caméras. Ces images, ces petites phrases, ces informations que seuls les reporters de terrain peuvent capter et qui en disent souvent bien plus long qu'un meeting devant des milliers de militants convaincus. En bref, tout ce que les candidats ne vous disent pas et ne vous montrent pas, bienvenue en coulisses, le podcast RMC de la présidentielle, épisode 3, c'est parti. Bonjour Hélène, bonjour Paul.
Bonjour à tous.
Bonjour Jérémy.
Alors on va s'intéresser cette semaine à un déplacement, celui d'Emmanuel Macron dans les Hauts-de-France. Certains se diront peut-être pourquoi parler dans ce podcast de la présidentielle d'un président qui n'est toujours pas candidat. Eh bien tout simplement parce que derrière ce déplacement se dessinent déjà les prémices d'une future candidature. Hélène, vous avez suivi le président chez lui, sur ses terres, l'occasion de faire quelques bains de foule.
Bonjour monsieur, dame. Vous allez bien ?
Comment ça va ?
Et vous ?
Ça va très bien, merci.
Bonjour.
Le banc de foule, c'est quand même l'ingrédient principal d'une campagne. Le président, il ne résiste pas à se prêter à ce jeu-là. Donc, ça a quasiment commencé, hein, ce déplacement, par des bains de foule. D'autant qu'il avait un programme bien chargé. 4 jours dans les Hauts-de-France, vous l'avez dit. 3 nuits, il a sillonné 4 départements. Le Nord, l'Aisne, la Somme, le Pas-de-Calais, où le président a passé son week-end avec son épouse Brigitte Macron. Au Touquet. Tout a commencé vendredi dernier. Il est d'abord allé à la maison de santé de proximité de Aulnoye-Aymeries pour parler de désertification médicale. Puis il est ensuite allé au Familistère Gaudin de Guise pour parler industrie. C'est là qu'il signe le pacte SAT 2. Tenez-vous bien, pacte pour la réussite de la Sambre Avesnois-Thiérache. Un pacte pour la réussite de grands projets. Objectif désenclaver le territoire en matière de ferroviaire, de santé, d'infrastructure.
Bref, de l'ultra local.
Ouais, un programme vraiment ultra local. On en vient même à se demander si le président avait complètement sa place à signer ce type d'engagements locaux et de contrats vraiment ultra locaux qui concernent une toute petite partie du territoire des Hauts-de-France.
Hélène, tu vas nous expliquer qu'au-delà de ces petites étapes, il y avait aussi des rendez-vous cachés à l'agenda du chef de l'État qui vous ont été annoncés à la toute dernière minute.
Oula, vous avez l'air gelé. Ça me tendit juste qu'on recule un tout petit peu de quelques pas. Et comme on doit enchaîner sur la halle après, on fait 3 questions max.
Voilà, celle qu'on entend là, c'est une conseillère d'Emmanuel Macron. Elle est en train de nous guider, nous, toute la meute de journalistes, juste après ce rendez-vous imprévu. À ce moment-là, il faut savoir qu'il est 8h du matin. Tous les journalistes sont arrivés par le premier train de Paris à 6h. Il fait froid. On vient de faire passer les chiens qui viennent déminer tout notre matériel. Hein. Ils viennent renifler toutes nos affaires, tous nos sacs, tous nos matériels. Et c'est à ce moment-là, nous on n'est pas du tout prévenus, que eh bien, cette conseillère nous dit, voilà, c'était pas prévu à l'agenda, mais le président va rencontrer 9 anciens salariés de l'usine Whirlpool. Ça va se passer dans un café du centre-ville, à l'abri des caméras. Il y a quand même quelques caméras qui vont pouvoir juste filmer, si vous voulez, de loin le président entouré de ses anciens salariés de Whirlpool. Pendant ce temps-là, tous les journalistes sont parqués sur un trottoir pendant un peu plus d'une heure.
Donc tu n'as rien vu de ce rendez-vous.
Moi,
en fait,
je n'ai rien vu du rendez-vous. On était tous à se dire, bon, quand est-ce qu'il va sortir? Qu'est-ce qu'ils sont en train de se dire? Il y avait quand même un journaliste de l'AFP qui a pu assister aux échanges et qui nous retranscrivait à nous un petit peu les échanges importants qui ont lieu.
Ça avait rien d'innocent de rencontrer ces salariés de Whirlpool. On se souvient tous de cette image en 2017, pendant l'entre-deux-tours, où Emmanuel Macron est allé sur place dans cette usine, là où il y avait plus ou moins tendu un piège Marine Le Pen. Et depuis cet événement, Whirlpool, le dossier Whirlpool est un dossier qui est au-dessus de la pile du bureau du chef de l'État à l'Élysée, mais malheureusement, il y a encore quelques problèmes à régler.
Oui, c'est un discours, enfin, c'est une situation qui suit et qui poursuit Emmanuel Macron depuis 2017, depuis cet entre-deux-tours de la présidentielle. Et depuis 2017, depuis la délocalisation, en fait, de l'usine amiénoise Whirlpool en Pologne, à chaque fois qu'il est revenu sur le site, Emmanuel Macron, c'était pour dire ce site va repartir, ce site peut vivre, etc. Pour autant, c'est une succession d'échecs, c'est une succession de faillites des repreneurs potentiels.
Et aujourd'hui, finalement, le chef de l'État a l'air de faire comme un mea culpa parce qu'il a l'impression, lui, comme les salariés, plus ou moins de cette fée à rouler dans cette affaire.
Exactement. Ce qu'on retient principalement de ces échanges, c'est cette phrase qu'il a prononcée face à ses ex-salariés. Il a dit « Moi aussi, je me suis fait avoir comme vous ». Voilà. Donc, il reconnaît finalement que ce sont des échecs successifs, mais il a voulu montrer qu'il allait continuer à accompagner tous ces ex-salariés qui n'ont pas encore retrouvé...
Il y a un peu moins de 50 personnes, je crois, qui sont encore sur le carreau aujourd'hui, qui attendent des reclassements, etc. Et c'est en fait... la fin de ce dossier qui est interminable et ces gens qui ont du mal à retrouver un emploi dans un bassin qui est déjà le symbole d'une forme de désindustrialisation française.
D'ailleurs, à ce sujet, on va écouter l'ancien délégué de la CFDT de Whirlpool, il s'agit de Patrice Sinoquet.
On est à 6 mois des élections, je pense que le sujet sur Amiens et par rapport à Whirlpool, ça fait partie des prochaines élections.
Ce délégué syndical, Hélène, il était autour de la table, il était avec Emmanuel Macron. Quel était son sentiment à la sortie ?
Alors, à la sortie de cet échange, lui, il admet quand même qu'il y avait de la bienveillance du côté du chef de l'État, qu'il était dans le dialogue, dans l'échange, mais comme on l'entend, il n'est pas dupe, il sait aussi que le président a un intérêt à venir.
Un intérêt à venir parce que tout le monde en parlait ce jour-là à Amiens, et les Amiénois n'ont pas vu, eux, un président, mais plutôt un candidat à la présidentielle.
Mais bien sûr qu'il est en campagne, on voit bien que tous ses déplacements sont en rapport avec sa campagne, c'est évident.
Il justement revient dans sa ville pour se faire réélire par les Amiénois.
C'est toujours des belles paroles.
Mais c'est normal, c'est de bonne guerre, je pense.
Voilà, c'est des Amiénois que j'ai rencontrés à l'issue de ces séquences et tous disaient qu'ils étaient impressionnés par le dispositif. Ils étaient tous au courant que le président était là, mais sans vraiment aller les chercher là-dessus, vraiment quasi unanimement, ils m'ont dit « bon ». On sent que les élections arrivent, on sent qu'il est en campagne. C'est bien qu'il vienne, mais nous non plus, on n'est pas dupes.
En effet, et puis Emmanuel Macron qui laboure ces terres des Hauts-de-France, ce n'est pas la première fois qu'il y allait cette année. On imagine qu'il y a peut-être une arrière-pensée politique, Paul.
Oui, il y a cette image chez Emmanuel Macron de président déconnecté qui lui colle littéralement à la peau. Et avec Amiens, qui est donc sa ville natale, il tente finalement de montrer qu'il a des racines. C'est là qu'il a vécu jusqu'à ses 16 ans. Je me souviens aussi, dans l'interview au magazine Zadig, il parle d'Amiens comme un de ses pôles en France. Voilà, il dit qu'il a des souvenirs, etc. Et finalement, c'est assez paradoxal. Et par rapport aux Amiénois qu'on vient d'entendre, il n'est pas accueilli à Amiens comme l'enfant du pays, Emmanuel Macron. Il cherche des racines, mais finalement, les gens là-bas sont pas dupes. Et tu disais, Jérémy, il laboure les terres, on peut clairement le dire comme ça. Il laboure là-bas, c'est son troisième déplacement, je les ai comptés, dans les Hauts-de-France en 6 mois. La dernière fois qu'il y est allé, c'était pour conclure le Beauvau de la sécurité. C'était à Roubaix. Il y était allé en juin dernier aussi, pendant l'entre-deux-tours des élections régionales. Il s'était notamment rendu dans l'école où enseignait sa grand-mère à Poix-de-Picardie. Et puis, il s'était rendu juste au lendemain du second tour des élections régionales, toujours en juin. Et là, c'était un peu plus haut, à Douai, dans le nord de la France, sur une usine Renault qui fabrique des batteries pour des voitures électriques.
Oui, et puis on a surtout vu l'échec de la majorité aussi à l'occasion de ces régionales. Le chef de l'État avait envoyé pas moins de 5 de ses ministres contre Xavier Bertrand, le président sortant. Mais c'était une défaite cuisante qui attendait alors la majorité, qui a surtout permis à Xavier Bertrand de relancer sa campagne à la présidentielle.
Coulisses, le podcast de la présidentielle.
Hélène et Paul, on passe maintenant à l'image de ce déplacement, cette poignée de main glaciale justement entre Emmanuel Macron et Xavier Bertrand, entre un chef de l'État et un président de région des Hauts-de-France, candidat au Congrès des Républicains.
convoquer l'entreprise. L'entreprise était à Bercy. Hein,
ouais, alors c'était une poignée de main interminable, crispée, glaciale. Ouais, près de 3 minutes. On remet dans le contexte. À ce moment-là, Xavier Bertrand accueille le président de la République à la famille Thiergaudin de Guise. Et là, se passe cet échange assez surréaliste. En fait, Xavier Bertrand en profite pour interpeller le président sur le sort d'Ascoval, la scierie sauvée in extremis d'une délocalisation en Allemagne. Mais Xavier Bertrand estime que c'est un sauvetage à court terme. Alors, il lance au président « Ce n'est pas la solution ». Réponse du président « Vous savez peut-être mieux que les autres ». Ambiance, un échange très nourri de plusieurs minutes où on sent toute l'adversité entre les deux candidats. Chacun campe sur ses positions et ça donne voilà, cette image de candidat.
Et alors, ce qui est marrant, c'est que Emmanuel Macron, il lâche pas le bras de Xavier Bertrand. Il met sa main littéralement sur le... Ouais.
On a surtout l'impression que Emmanuel Macron est en train de choisir son futur adversaire, Paul.
Oui, il y a clairement là un combat de coq, en tout cas ça y ressemble. Moi j'ai la sensation que les deux ont vraiment envie d'en découdre, ils se taclent mutuellement, ils entretiennent ce duel-là comme si Emmanuel Macron vraiment cherchait à placer Xavier Bertrand comme un de ses adversaires. Leurs relations, clairement, elles sont électriques, on le voit dans cette scène dont parlait Hélène à l'instant, où ils portent leur masque, d'ailleurs tu me confirmes, mais ils portent leur masque et ils sont les yeux dans les yeux, littéralement l'un sur l'autre. Moi je me demande dans quelle mesure quand même il n'y a pas une part de stratégie là-dedans de pousser comme ça Xavier Bertrand, de presque le désigner comme un adversaire. Et puis j'en parlais cette semaine avec certains élus de la majorité qui me disaient que finalement c'était difficile d'avoir Xavier Bertrand comme adversaire politique, mais qu'il y avait un bénéfice politique à tirer de ça qui était peut-être plus important que de battre une Valérie Pécresse ou un Michel Barnier par exemple dans l'hypothèse d'un second tour à la présidentielle.
Visiblement Emmanuel Macron est assez impatient et il cherche à savoir qui sera son adversaire.
Il trépigne.
Il trépigne d'impatience. Cet adversaire des Républicains qui n'est donc pas désigné. Hélène, toi, tu étais présente pendant tout ce déplacement et ce duel, c'était un duel larvé qui a duré pas moins de 4 jours.
Ah oui, ça a duré jusqu'au lundi, jusqu'au dernier jour. À ce moment-là, on se trouve à Amiens, on est à la halle Fraissinet. À ce moment-là, le président rencontre une centaine d'élus. On est un peu dans la configuration du grand débat. Donc, on a un peu le président au milieu d'un ring, hein, entouré donc d'une centaine de personnes. À ce moment-là, Xavier Bertrand est censé être là, mais il arrive en retard. Alors, il se faufile, il s'assoit, il essaye d'être un peu discret, sauf que manque de chance. À ce moment-là, le président parle de transport, c'est la compétence de la région, dont Xavier Bertrand est le président. Et donc là, eh ben, il veut lui tendre le micro.
Est-ce qu'il y a des compléments en question ou des points que les uns et les autres souhaitent faire ? Peut-être Monsieur le Président du Conseil Régional, que je salue par la même, puisque vous êtes autorité sur les transports, en particulier sur le ferroviaire. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez rajouter ou...
On arrive en retard, on se fait discret.
Voilà, là on n'entend pas très bien, mais Xavier Bertrand répond « Quand on arrive en retard, on se fait discret ».
Non mais c'est presque gênant
c'est
comme ça.
C'est très gênant. Il refuse de prendre la parole à ce moment-là, ouais, mais c'est sans compter sur le président qui insiste.
En fait, c'est maintenant. Sur les transports, c'est maintenant en tout cas.
On entend des rires gênés dans la salle. Hein, Paul, comme tu dis, c'était extrêmement gênant. Xavier Bertrand prendra la parole quelques minutes après. En tout cas, nous, les journalistes qui étions là, on a senti cette tension qui a duré d'ailleurs pendant les 2 heures, je dirais, de tous ces échanges.
Ah bah quand ça commence comme ça.
Hein. Il y a d'ailleurs une pique. Hein, pendant sa conclusion, Emmanuel Macron a d'ailleurs dit à un moment certaines personnes qui sont ici présentes avaient des responsabilités à un moment en parlant de Xavier Bertrand qui était ministre de la Santé pour dire que lui n'avait rien fait à ce moment-là. Bref, ça a duré pendant toute cette séquence. Nous, les journalistes, on n'avait qu'une envie à la fin, c'était d'interroger Xavier Bertrand sur ce moment très fort. Il esquive, il répond par l'un de ses arguments favoris, le président est déconnecté.
Il ne comprend pas bien les Français. Il ne les connaît pas bien, les Français. Il est hors sol ? Il est hors sol. Mais un président qui ne connaît pas bien les Français ne peut pas clairement régler les problèmes des Français. Ça, c'est certain.
Bon, on voit bien que la campagne a débuté.
Il
on ne
pilonne,
sait toujours
j'adore.
Pas si Xavier Bertrand sera le candidat des Républicains. Mais on le voit, en tout cas, Emmanuel Macron, lui, a hâte de faire campagne. Il n'est pas déclaré. Le chef de l'État devrait d'ailleurs se déclarer assez tardivement dans cette présidentielle. Mais on voit que ce qu'il aime, c'est le combat contre des adversaires désignés et encore plus particulièrement quand ils viennent de la même région. En tout cas, c'est une affiche à suivre et nous serons là pour tout vous raconter.
Coulisses, le podcast de la présidentielle.
On passe aux témoins de la semaine, ces Français qui ont vu débarquer dans leur quotidien la campagne présidentielle. Il s'agit aujourd'hui d'Estelle Poignet. Elle est sage-femme libérale à Amiens. Elle est l'une des trois sages-femmes qui a rencontré Emmanuel Macron pour lui expliquer le mouvement de colère de cette profession. Allô Estelle Poignet ?
Oui, allô, bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien, merci.
Donc vous avez rencontré le chef de l'État en début de semaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment cette rencontre s'est organisée ?
C'est une délégation de la clinique qui a demandé une audience via un député auprès de Madame la préfète d'Amiens.
Et comment ça s'est passé ? Vous êtes retrouvée autour de la table avec Emmanuel Macron ?
On a rencontré une conseillère d'État à la santé et un député. Nous avons discuté pendant 2 heures avec des gens qui étaient dans la bienveillance, dans l'écoute. On pense qu'on a été entendus parce qu'à la suite de ça, Madame la conseillère d'État nous a dit que Monsieur le Président Macron demandait si on voulait bien aller le rencontrer, ce que forcément nous avons accepté.
Comment l'échange s'est passé ?
Forcément, c'est impressionnant. C'est pas tous les jours qu'on rencontre un président de la République, surtout dans un contexte de mouvement pour une profession médicale qui est malmenée depuis longtemps. Les grèves, elles se succèdent depuis... moi, je suis sage-femme depuis 30 ans. Et on avait la même grève il y a 20 ans. Forcément qu'un président amiénois de surcroît, il vient écouter des sages-femmes amiénoises, c'est quand même un grand succès.
Vous avez l'impression qu'il vous a écouté, qu'il connaissait le sujet ?
J'ai surtout le sentiment qu'il nous a écoutés. On a parlé quand même 20 minutes avec Monsieur le Président. Nous avons ouvert le délai débat sur des revendications qui sont légitimes pour toutes les sages-femmes et pas que du public, pas que du privé.
Et vous l'avez trouvé comment, le chef de l'État ?
Intéressé par notre sujet, intéressé par notre cause, à l'écoute, avec une reconnaissance de notre profession, en tout cas sur notre entretien. C'était très cordial, vraiment, dans une bienveillance et dans une entente vraiment mutuelle. Et
Estelle, vous me disiez que peu importe vos idées, vous avez été impressionnée quand même par la poigne du président. Il y a un certain charisme qui se dégage de lui, c'est ce que vous me racontiez.
Oui, bien sûr. Forcément, c'est un grand charisme qui se dégage de cette personnalité. Et en personne, c'est une personne quand même que je trouvais vraiment dans l'écoute. Et nous aussi, nous l'avons écouté dans ce qu'il avait à nous dire. Bien sûr que les choses ne vont pas se faire comme ça, bien sûr. Mais cette reconnaissance qu'il a montrée par le témoignage, en tout cas pour l'instant par les mots, montre quand même son intérêt pour notre profession. Et oui, il y a un charisme qui se dégage. Il y a quand même... nous étions impressionnés. Alors, peut-être aussi de fait de petite sage-femme qui n'a aucune prétention dans les instances ministérielles de se retrouver avec le président de la République française. C'est quand même pas à donner à tout le monde. Et d'avoir porté la parole de toutes les sages-femmes, d'avoir rencontré un amiénois de surcroît. Et vraiment, on est très fiers de ça.
Est-ce que cette rencontre, vous l'avez un petit peu racontée à vos proches ? Est-ce que ça fait un peu d'animation dans votre famille ?
Ah bah évidemment, forcément, c'est quand même au-delà des convictions politiques, c'est quand même un sacré honneur qu'on a eu. Donc forcément que ça fait débat autour de moi dans la structure où je travaille, auprès de mes collègues, parce qu'ils me demandaient comment ça s'était passé, comment les choses sont arrivées. Voilà, enfin, ça fait un petit peu d'animation.
Alors, en revanche, est-ce que vous avez déjà été rappelé par le cabinet d'Olivier Véran, ministre de la Santé ?
Non, on n'a pas été rappelé. Non. Nous, on voulait juste remonter l'information, que quelqu'un soit témoin de ce que l'on vit.
Mais merci beaucoup Estelle, j'espère que vos revendications seront entendues, que vous aurez un retour très prochainement du cabinet du ministère de la Santé. Et on suivra tout ça avec beaucoup d'attention. Voilà, coulisses épisode 3, c'est terminé. Nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans les coulisses d'un déplacement présidentiel aux allures déjà de déplacement de campagne. Merci Paul, merci Léa Hélène.
À très vite.
Au revoir.
On se retrouve donc la semaine prochaine. D'ici là, coulisses est à écouter et réécouter sur RMC et sur toutes les plateformes. N'oubliez pas non plus le journal du off du service politique de RMC tous les matins à 5h45 sur notre antenne et sur les réseaux sociaux.
Coulisses, le podcast de la présidentielle à écouter sur toutes vos plateformes, sur rmc.fr et sur l'appli RMC.